L'ours et la carotte. Une émission d'environnement proposée par Nicolas Saint-Martin et Claire Cayrouga. Quand on parle de l'éthique de l'écologie, on arrive vite à penser aux dominations de l'homme sur la nature et de la propre nature de l'homme. L'homme est-il bon par nature? Ou bien l'homme est-il un loup pour l'homme? Finalement, c'est presque d'écologie politique dont il s'agit. Une représentation de la nature humaine, une attitude de l'homme dans la société. On pourrait décrire deux extrêmes. D'un côté, un homme prédateur, dompteur de tout ce qui est sauvage, un homme qui construit le monde à son image et balaye du revers de la main, détruit ou gomme tout ce qui est différent ou ne lui convient pas. Bref, une société construite par l'esprit humain et la technique qui en découle. Une société en forme pyramidale où chacun essaye d'être plus fort et plus puissant que les autres. Et dans le règne du vivant, l'animal dominant est bien sûr l'homme avec un grand H. Il y trône grâce à l'instauration d'un état de guerre permanent. Et de l'autre côté, l'autre extrême, l'homme sauvage, bon par nature, est fondu dans le groupe, la tribu, qui n'existe pas vraiment en tant qu'individu. Son bien-être le lie au collectif, et son collectif regroupe tous les éléments de la nature. Il vit en harmonie avec les autres êtres vivants, végétaux et animaux. Lors de rencontres et de conférences, j'ai entendu parler plusieurs fois d'écologie mentale. Et cette notion a suscité ma curiosité. J'ai rencontré aussi plusieurs personnes qui tissaient des liens étroits entre non-violence et écologie, et qui construisaient des modes d'action non-violents pour mener des luttes environnementales. Ça veut dire qu'on peut lutter sans violence ? Il y a bien des Gandhi et des Pierre Rabhi qui sont les penseurs et philosophes de nombreux écologistes. Et il y a bien aussi des mouvements organisés avec des principes de non-violence, comme actuellement Action non violente, un collectif né autour de la COP21 pour agir et alerter sur les questions du climat. C'est donc que la non-violence est une notion importante pour l'écologie politique. Et dans la pratique, la violence peut se retrouver dans tous nos actes. Il ne s'agit pas que des actes violents et visibles, directement condamnables et condamnés. La violence diffuse se retrouve dans les familles, dans une forme de maltraitance souvent involontaire, dans nos couples, avec nos enfants, nos fratries, et aussi bien sûr au quotidien avec nos collègues et bien d'autres gens. Pour explorer ces questions, je vous propose deux rencontres. L'une avec Mario Viana, il nous présente L'Odyssée de l'Empathie, le film d'investigation qu'il a co-réalisé avec Michel Maignan et qui est actuellement diffusé et diffusable. Avis aux amateurs. Et ensuite, rencontre avec Maud Alejandro, qui nous parlera de l'OVEO, l'Observatoire de la violence éducative ordinaire. L'OVEO fait partie de ces associations qui informent pour un monde plus pacifié et finalement plus respectueux de la nature et de notre propre nature. Mario Viana, bonjour.
Oui, bonjour.
Alors vous êtes réalisateur, producteur d'un film qui s'appelle L'Odyssée de l'Empathie, l'espoir de sauver l'humanité. Et on va en parler, ça parle notamment d'écologie.
Ce film, avec Michel Maignan, nous avons démarré l'idée de faire ce film par un constat qui est que, dans les chiffres officiels, 700 enfants meurent en France par an victimes de violences familiales. 700 enfants, ça représente donc 2 enfants par jour. Partant de ce constat-là, on a voulu essayer de comprendre pourquoi il y a cette violence faite aux enfants, en sachant que ce sont des enfants. C'est-à-dire que quand on est violent avec les adultes, c'est une chose, mais être violent avec les enfants, c'est extrêmement grave.
Alors du coup, la plupart des parents se sont déjà certainement posé la question. C'est vrai que quand on a des enfants, souvent ça nous met un peu hors de nous et on dit aussi que les enfants sont violents entre eux, enfin sont assez durs, sont bruts quoi.
Voilà, alors c'est une croyance qui existe mais qui en fait elle n'est pas fondée. Parce que l'enfant, nous on le pense et les grands spécialistes nous le disent, l'enfant naît bon. C'est en évoluant qu'après il devient agressif. Il devient agressif de par le contexte familial, peut-être des fois, mais par le contexte social, de par l'école, etc. Que les enfants entre eux soient violents par moment, oui, parce que c'est des jeux. Mais ça ne reste que dans le jeu. Le problème, c'est que quand ça sort du jeu pour devenir une vraie violence, là, ça pose un vrai problème. Et ça, ce n'est pas à la base l'enfant. Ça, c'est comment il grandit, comment il est formaté, on va dire, formaté comme un disque dur. C'est une comparaison un peu bizarre, mais voilà. L'enfant, quand il naît bon. C'est ce qu'on en fait derrière.
Donc cette violence que vous décrivez dans votre film d'investigation, vous êtes allé essayer de comprendre ce phénomène dont vous venez de parler. Vous avez été à la rencontre de différents acteurs, notamment Mathieu Ricard et Pierre Rabhi.
Mathieu Ricard, Pierre Rabhi, nous avons commencé cette enquête, parce que c'est vraiment une enquête. Nous sommes allés chez les chasseurs-cueilleurs du Kalahari pour essayer de comprendre pourquoi ce peuple, qui est un peuple considéré comme un peuple primitif...
Qui sont dans quel pays ?
Ils vivent au-dessus de l'Afrique du Sud, ils vivent en Namibie. Namibie, ça se trouve entre l'Afrique du Sud et l'Angola. C'est un peuple qui vit, comme à l'époque, de cueillette, et ils ne sont pas violents du tout. À tel point qu'ils n'ont pas de chef, ils n'ont pas de police, ils vivent, ils n'ont pas de violence. Et le jour, quand nous sommes allés les filmer et que nous avons demandé s'ils frappaient les enfants, s'ils étaient violents avec les enfants, nous avons dû poser la question trois fois de façon différente parce qu'ils ne comprenaient pas le sens de la question. Ils ne voyaient pas ce que ça voulait dire. Nous avons aussi été nous renseigner auprès des Inuits, un peuple primitif qui ne connaissent pas la violence non plus. Et donc après, nous avons interviewé Mathieu Ricard, nous avons interviewé Pierre Rabhi, nous avons interviewé Thomas d'Assenbourg, que lui, il nous fait aussi la liaison entre la violence faite aux enfants, la violence faite aux adultes, et la violence faite à la nature. Et comme il dit Thomas d'Assenbourg, si on veut arrêter cette violence énorme faite à la nature, parce que nous sommes en train de la détruire, il faut qu'on arrête de faire la violence envers nous-mêmes.
Envers notre propre nature et nos propres enfants.
Exactement.
Parce qu'au final, tout vient de cette éducation. À partir du moment où on va maltraiter un enfant, ça va devenir un adulte qui n'aura plus d'empathie pour les autres et pour la nature.
Exactement. C'est-à-dire que c'est ou un cercle vicieux ou un cercle vertueux. Plus on maltraite un enfant, plus il va s'endurcir, plus il va être violent. Et donc s'il est violent envers lui, il sera violent envers ses copains, envers sa famille et envers la nature. Si on est dans un cercle vertueux, c'est-à-dire que nous donnons de l'empathie à l'enfant, l'enfant continue est empathique, il n'a que de la gentillesse. Si on continue à lui donner cette gentillesse et qu'on arrête de le dire, ce que tout le monde dit, et moi y compris le premier, avant de comprendre ça, que je disais à mon enfant, mais fais ci, fais ça, et plutôt que de donner des ordres, si on arrive à expliquer pourquoi ce serait bien qu'il le fasse, il est dans une empathie. S'il est dans une empathie, il sera empathique avec ses copains. Et il sera empathique en grandissant avec son conjoint, et puis il sera empathique avec la nature. C'est un cercle vertueux.
Alors quand vous dénoncez cette violence faite aux enfants, il ne s'agit pas seulement de violence physique, c'est tout type de violence. On ne se rend pas compte, mais une parole mal placée de façon répétée, ou même ça peut être une seule fois, peut faire autant de mal, voire plus, pour un enfant ou même pour un adulte d'ailleurs.
Complètement. Je vous donne un exemple que mon fils qui a 9 ans aujourd'hui, sa maîtresse l'année dernière, et je l'ai appris par un autre biais, qu'elle lui a dit « tu ne comprends rien, t'es nul ». Quand on dit ça à un enfant, si on dit ça à un adulte il peut avoir la distance et comprendre ce que l'autre adulte lui dit. Un enfant, il n'a pas cette distance-là parce que pour lui, il a deux références, c'est les parents, le cercle familial et puis l'école. C'est les références. Si sa maîtresse lui dit qu'il est nul, effectivement, quand je lui ai parlé, je lui ai posé une question, il m'a dit oh, « ben, je ne comprends pas, de toute façon je suis nul comme dit ma maîtresse ». C'est là où j'ai appris cette histoire. Ça, c'est une énorme violence. C'est une violence extrêmement grave de dire aux enfants « tu es nul, tu comprends rien, tu ne sauras jamais rien faire ». C'est aussi grave, sinon encore plus grave qu'une violence physique.
Du coup, on fait des futurs adultes qui ne sont pas sûrs d'eux, qui deviennent malléables et qui n'ont pas l'initiative, qui n'ont pas l'assurance qu'ils pourraient avoir. Et pour aller voir ça, justement, Pierre Rabhi, il expérimente une éducation alternative. Bon, on va dire Pierre Rabhi, pour le présenter pour les auditeurs qui ne le connaîtraient pas. Donc, c'est un paysan, poète, philosophe.
Voilà. On l'appelle le paysan philosophe. Et effectivement, lui, il prône une agriculture, une culture de l'agriculture complètement différente. Et c'est-à-dire que Pierre Rabhi, il le dit aujourd'hui, on dit que la terre ne peut plus nourrir la population, or que, d'après lui, la terre pourrait nourrir 3 fois sans aucun problème la population, à condition de le faire d'une façon écologique et bienveillante. Comme on parle de la bienveillance pour les enfants, Mathieu Ricard parle de l'altruisme vis-à-vis de la nature. Oui, il y a une bienveillance vis-à-vis de la nature, un altruisme vis-à-vis de la nature. Plus on la massacre, moins elle pourra nous donner. Plus on est conciliant avec la nature, plus elle pourra nous donner. C'est pareil qu'avec avec l'être humain.
Alors pour faire voyager un petit peu les auditeurs, vous avez donc été rencontrer des peuples primitifs. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué justement dans ce rapport à l'altruisme, parce qu'au final, c'est aussi une conception du monde qui fait qu'il n'y a pas de violence dans ces sociétés primitives.
Ce qui m'a beaucoup frappé, d'ailleurs on le dit dans le film, c'est que... au Kalahari, donc chez les Bushman. Les Bushman, c'est le Kalahari, c'est le film « Les dieux sont tombés sur la tête ». Voilà, on est allé voir ce peuple-là dans ce village-là. Et il y a une chose qu'on dit dans le film, ils vivent que de cueillette et de chasse. Et donc il y a le groupe des chasseurs. Et aucun chasseur ne jamais vient avec, en se disant « j'ai fait une belle chasse, j'ai réussi à faire quelque chose ». Il n'y a pas un jugement d'être le meilleur. Quand ils chassent, il faut qu'ils soient des bons chasseurs pour chasser, parce qu'ils nourrissent tout le village. Mais il n'y a pas un meilleur chasseur. C'est-à-dire qu'un jour, il y a un qui a fait une belle prise, bon, d'accord, et il a fait une belle prise, ok. Le lendemain, ce sera un autre qui fera une belle prise. Et du fait qu'il n'y a pas ce jugement de valeur, donc ils n'ont pas besoin d'être en concurrence. S'ils n'ont pas besoin d'être en concurrence, la violence s'arrête puisqu'ils sont tous égaux. Il n'y a pas de rivalité. Ils disent qu'ils ont le complexe d'humilité.
Et finalement, c'est peut-être parce que justement, la place de l'individu est totalement différente. Enfin, l'individu n'existe pas en soi. C'est un groupe, ils sont tous ensemble en coopération.
C'est un groupe, ils sont tous ensemble. Et pareil, il y a une femme qui le dit dans ce film, un bébé dont les parents meurent, il n'est pas orphelin. C'est un mot qui n'existe pas dans leur langage. Quand on leur dit, est-ce qu'il y a des orphelins, ils ne savent pas ce que ça veut dire. Parce que l'enfant, il n'appartient pas à ses parents. L'enfant s'appartient d'abord à lui-même. Et après, les parents sont là pour l'aider, pour l'aider à son développement. Mais il appartient au groupe, il appartient à tout le groupe. Donc si les parents meurent, et ben les enfants, ils sont pris en charge par le groupe naturellement.
Alors Mario Viana, donc, dans votre film L'Odyssée de l'Empathie, donc, vous avez rencontré ces peuples primitifs, autochtones. En tout cas, ici, dans nos sociétés occidentales, il y a aussi des très bons exemples. Vous en avez visité pour les présenter dans votre film ?
Dans notre film, les exemples qu'on a, c'est Pierre Rabhi, c'est Sophie Rabhi-Bouquet qui a créé l'école de la ferme en Ardèche, qui est un exemple effectivement de comment on peut développer une éducation à l'école, différente, où il n'y a ni punition ni note. Et les enfants arrivent très bien au lycée, parce qu'elle s'arrête, elle fait le primaire et le collège. Et quand les enfants arrivent au lycée, ils sont dans le niveau normal de n'importe quel collégien qui arrive au lycée. Sauf qu'ils n'ont pas eu ni punition ni note.
Alors pour les personnes intéressées qui voudraient vous aider à diffuser dans des cinémas, peut-être dans des réseaux même hors cinéma, comment on fait pour vous contacter ?
Alors soit ils nous contactent via le site internet qui s'appelle l'odysseedelempathie.com, donc vous pouvez taper l'Odyssée de l'Empathie comme vous voulez, vous arriverez sur le site et là vous avez toutes les possibilités pour nous contacter, soit en allant sur le site Touscoprod, qui est un site de financement participatif, parce que notre film a été fait, et il faut vraiment le dire, grâce à l'heure actuelle plus de 1000 coprods, c'est-à-dire qu'il y a plus de 1000 personnes qui sont rentrées en coproduction pour le film, en donnant ce qu'ils veulent, de 5 euros, ça va de 5 euros à 500, mais enfin voilà, je crois que le plus gros don qu'on a eu c'était 2000 euros. Mais sinon, c'est des dons de 20-30 euros. Et c'est grâce à ces 1000 personnes que le film peut avoir lieu aujourd'hui.
Donc l'Odyssée de l'Empathie, un film sur les violences faites aux enfants, sur l'espoir de sauver l'humanité par la bienveillance.
C'est un des espoirs de sauver l'humanité, c'est la bienveillance, l'altruisme.
Per chi c'è tanta gente, per acqua non c'è niente, ed immediatamente alla cassero. Elle est l'animal, elle m'aime normal. Elle est la tarte à du domino. Però c'è l'orco, per piccio, pinocchio. C'è quel marmocchio che domani mangerò. Ed è come Roma, e sei come strada. Di tutte le strade che a Roma porto. Con che bella storia, fuoco e raccontato. Zenda adesso sono noi da letto e ne andrò. Sotto le coperte, tutte le parole. Falle capriole, un'altra storia inventa.
Bonjour Maud.
Bonjour.
Vous êtes bénévole à l'OVEO, donc l'Observatoire de la violence éducative ordinaire. Pourquoi avoir créé un observatoire de la violence ordinaire faite aux enfants ?
Alors l'idée est venue de Olivier Morel, qui a été impressionné, a lu les livres d'Alice Miller. Donc c'est la première personne qui s'est intéressée aux causes de la violence humaine et qui s'est dit que finalement peut-être l'origine de toutes les violences était les violences éducatives ordinaires. Donc les violences éducatives ordinaires, c'est tout ce qui est communément accepté par tous et toléré pour bien éduquer les enfants ou les faire obéir. Donc je mets évidemment des guillemets à tout ça.
Alors aujourd'hui, bien sûr, on n'a plus les instituteurs qui tirent les oreilles ou des choses comme ça, mais ça existe toujours, quoi.
Alors voilà, la violence éducative, ça va être toutes les violences verbales, psychologiques, physiques, qui peuvent aller pincer quelqu'un, l'humilier, l'enfermer dans le noir, lui dire qu'il est nul, ou bien le gifler. Donc certains résument à la fessée, mais il faut savoir que la fessée, c'est seulement 10% de toutes les violences éducatives ordinaires. Et donc l'idée d'Olivier Morel de créer cet observatoire, c'est que quand il a lu tous les livres, enfin beaucoup de livres des sciences sociales qui traitaient du sujet de la violence, eh bien, ce thème n'était pas abordé dans les livres.
Donc, sauf Alice Miller.
Exactement, Alice Miller. Donc, elle en parlait.
Et c'est quoi le titre des ouvrages d'Alice Miller, par exemple ?
Donc, il y a Le drame de l'enfant doué, puis... j'ai oublié le deuxième titre. Et donc, l'idée, c'est de dire qu'en fait, il y a un déni, quand on a subi ça de ses propres parents, il y a, pour pouvoir survivre, en fait, on oublie en fait ce qu'on a subi parce que nos propres parents, qui sont censés nous donner la source d'amour, nous a fait subir quelque chose. Et donc pour survivre, il faut l'oublier. Et c'est ce qui permet à chaque fois de génération en génération, de reproduire ce qu'on a connu sans le remettre en question. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Et donc, ce pourquoi il y aurait un oubli dans les sciences sociales, c'est justement ça, en fait. Hein. C'est le sujet qu'on a mis de côté. Et donc,
même pour les chercheurs en sciences sociales, c'est quelque chose d'occulté, en fait.
Exactement. Et donc, l'observatoire permet à toute personne qui s'intéresse à faire changer de regard sur les enfants, donc les enfants qui sont autour de nous ou celui qu'on a été, en fait, sont amenés à venir se renseigner, lire des ouvrages, trouver une bibliographie. Il y a évidemment des stands en France, mais l'objectif de l'OVEO clair et affiché, c'est un objectif militant, c'est de faire passer la fameuse loi qui interdirait tout châtiment corporel en France, comme 47 autres pays l'ont déjà fait.
Voilà, alors tout à l'heure, vous m'avez montré une carte vraiment rigolote, c'est-à-dire une carte du monde où seuls apparaissent les pays qui ont interdit de façon forte par une loi donc ces violences faites aux enfants.
Voilà, il y en a beaucoup, il y en a quand même beaucoup en Europe, nous on est un peu à la traîne, en Amérique du Sud aussi, en Afrique, mais l'Amérique du Nord pas du tout, donc c'est vrai qu'on a beaucoup de chemin à faire. Et l'idée en fait, c'est que même si la France le fait un petit peu tard, l'idée c'est qu'elle le fasse bien, c'est-à-dire qu'il y a des pays qui ont seulement fait voter la loi sans mesure d'accompagnement à la parentalité. Et nous en fait, on veut travailler pour que quand la loi sera votée, il y ait ces outils qui soient diffusés dans les PMI, les crèches, à l'école, auprès des parents, peut-être dans la valise de maternité. On a beaucoup d'idées par rapport à tout ça.
Donc faire passer cette loi, en fait, c'est plus que pour réprimer un éventuel parent qui serait vraiment violent envers son enfant. C'est pour sensibiliser, pour qu'on en parle et pour que cette culture des violences ordinaires, on le répète, qui sont aussi bien verbales, symboliques que physiques, ça s'arrête ou en tout cas ça se réduise.
Exactement, c'est-à-dire que ce qu'on dit, c'est que dès qu'on prend conscience que ce qu'on fait n'est pas pour le bien de l'enfant, mais a des conséquences et donc est de la violence, eh bien, la violence a tendance à diminuer. Donc cette prise de conscience, voilà, personne n'ira dans une famille avec un policier pour voir ce qu'il s'y passe, mais de fait, la société va, en une ou deux générations, complètement changer de chemin. Et c'est vrai qu'Alice Miller, elle a étudié l'histoire de grandes personnalités comme Hitler ou d'autres dictateurs, on retrouve toujours dans leur enfance des drames absolus qui peuvent expliquer, voilà, pour l'OVO, c'est l'origine de toute violence humaine en fait.
Alors ce que vous dites donc à l'Observatoire de la violence éducative, c'est en posant des questions, soulever ce problème. Pourquoi est-ce qu'on appelle agression le fait de frapper un adulte, cruauté le fait de frapper un animal, mais éducation le fait de frapper un enfant ? Et ça, c'est vrai que ça existe encore, cette croyance qu'un enfant doit suivre ce qu'on lui dit, qu'on a la bonne parole, qu'on lui veut du bien, sans tenir compte de peut-être du contexte, sans avoir finalement de l'empathie pour cet enfant.
Exactement, on a toujours entendu ces petites phrases, mais c'est pour ton bien, j'ai eu des fessées, j'en suis pas mort, ce n'est pas si grave, c'est qu'une claque. Et au fond, on a intériorisé que c'était bon pour nous. Hein, c'est le processus victime-agresseur. C'est ce dont on essaie de sortir. Donc pour nous, c'est l'ultime révolution. Ça passera par l'éducation, c'est-à-dire trouver un autre rapport. Donc c'est vraiment d'humain à humain, de respect mutuel, de respect des attentes et de besoins de l'enfant et du parent. Donc c'est trouver un terrain d'entente pour vivre au quotidien. Et donc il y a tout un espace à redessiner, à retravailler, à repenser et au quotidien imaginer des nouvelles solutions pour vivre ensemble. Et on est sur un chemin et il y a beaucoup, beaucoup de choses qui se font en France actuellement, beaucoup d'associations ou de personnes qui sont très impliquées dans cette démarche. Et c'est à chacun de trouver son chemin.
C'est comme ça que Maria Rita Parsi, psychologue italienne, disait, pour reprendre cette question de la révolution, « Il est urgent de promouvoir la culture du respect de l'enfant comme ultime révolution possible et comme élément fondamental de transformation sociale, culturelle, politique et humaine de la collectivité. » Là, c'est vraiment voir comment cette éducation, on se dit « c'est mon enfant, je fais ce que je veux, je lui transmets les valeurs que je veux, de la façon que je veux », en fait, ça a une influence sur la société. C'est cet enfant va devenir un adulte, va construire la société de demain, et ce rapport aussi à l'environnement global. Lui, le rapport qu'il aura aux autres, le rapport qu'il aura à lui-même, bien sûr, en tant qu'individu pour agir ou pas, avec un manque de confiance, enfin, tout plein de problèmes psychologiques qu'il peut y avoir liés à des maltraitances, mais aussi son rapport aux autres, à la collectivité, et même à l'environnement, à la nature. C'est ça qui est aussi extrêmement intéressant sur ces questions-là.
C'est exactement ce qu'on pense à l'OVO. C'est-à-dire qu'en tant qu'enfant agressé, on s'est coupé de nos émotions, donc on a perdu l'empathie naturelle qu'a un enfant quand il naît. Et au fond, si on écoutait cette souffrance de l'enfant et qu'on la reconnaissait, que donc on retrouvait une place par rapport à son histoire, et si on élevait les enfants sur un autre schéma, les gens seraient dans l'empathie et donc auraient une empathie pour la nature. Et on ne pourrait pas laisser se détruire la planète sous nos yeux sans trouver de solution. On n'en serait pas à la COP21. Mais on prendrait d'autres solutions bien plus radicales que celles qu'on fait actuellement.
Alors on parle d'empathie. Empathie, ça vient de pathos, c'est les sentiments, c'est reconnaître ses propres sentiments, les sentiments de l'autre. Et je vais vous poser une question finalement le fait que si les femmes avaient peut-être plus de poids dans la société, vu que c'est censé être féminin, le côté sentiment, tout ça, et puis chez les petits garçons, on a quand même encore tendance à dire « ne pleure pas » ou des choses comme ça, reconnaître ses propres sentiments, en faire part aux autres, c'est déjà le début d'une société plus paisible et moins guerrière, et finalement qui va dans ce sens de plus d'empathie globale pour soi, pour les autres et pour la nature.
Mais exactement, c'est-à-dire que c'est tout à fait bien résumé, c'est-à-dire que la base de toute cette révolution de l'éducation, c'est de dire que la personne qui est en face de moi a des sentiments, colère, tristesse, joie, haine, pourquoi pas, et qu'en fait tous les sentiments sont acceptables. Et je crois que quand on a compris ça, on a tout compris, c'est-à-dire qu'on va reconnaître chez l'autre, donc cette fameuse empathie, c'est de dire « je vois que tu es en colère parce que je n'accepte pas de te donner ce 15e bonbon, je le comprends maintenant ». Je ne peux pas te l'autoriser parce que, voilà, éventuellement, tu pourras avoir des caries ou ne plus avoir faim ou avoir mal au ventre. Donc, il y aurait une conséquence néfaste pour toi. Mais je constate et j'accepte que tu sois en colère par rapport à ça.
Ça, c'est les bases de la communication non violente ou la communication bienveillante. C'est-à-dire, on fait un état des lieux factuel. Tu es en colère, je t'ai dit ça, tu as fait ça, et après, parler de ses sentiments.
Voilà, les reconnaître. Après, tous les sentiments sont acceptables. On peut dire, moi, dans cette situation, je ne me serais pas sentie honteuse si un collègue vient nous expliquer quelque chose. Mais je peux comprendre que toi, dans ce moment-là, ce soit quelque chose qui t'ait fait souffrir. Et ensuite, on peut travailler sur les comportements. Tous les sentiments sont acceptables, mais peut-être pas tous les comportements. Si un enfant va griffer ou mordre un autre enfant, parce que l'autre lui a pris son jouet, on peut lui expliquer qu'il peut être très impatient d'avoir ce jouet, mais que pour l'exprimer, pareil, il faut qu'il passe par la parole, le verbaliser, et pas par l'agression.
Et du coup, la suite de ce processus, donc on décrit la situation factuelle, on fait part de ses sentiments à l'autre, et pour essayer de rendre aussi les enfants plus acteurs de leur vie en tant qu'enfant, mais après en tant qu'adulte, ben, essayer de trouver des solutions ensemble. Peut-être proposer à l'enfant, alors tu es fâché, qu'est-ce que tu voudrais faire, tu peux faire ça ou ça, donner des choix. Enfin, il y a énormément de techniques, et ça, donc, c'est toute la communication non violente ou bienveillante. Il y a énormément d'ouvrages qui peuvent expliquer aux gens comment aller dans cette voie, et sans chercher la perfection non plus. Hein.
Alors, tout à fait. C'est vrai qu'à l'OVO, en fait, on a beaucoup d'échanges sur ce sujet, parce que l'idée, c'est qu'en fait, on essaye de pas donner trop de recettes, de méthodes, notamment sur la parentalité positive, même si moi, j'ai été formée au départ par là, et c'est comme ça que je suis venue à l'OVO. Mais en fait, c'est un horizon qu'il faut dépasser, c'est-à-dire ce sont des outils de communication qui sont très utiles quand on n'a plus ces outils de chantage, humiliation, agression verbale, injure. Les parents sont démunis, ne savent pas par quoi remplacer. Et donc ces outils sont très bienvenus au départ pour avoir un petit guide, en fait, comme des petits outils, hein, ce qu'elle appelle des outils, par exemple Faber et Maslitch, ou ils appellent Filiosa, Catherine Dumontet-Crémer. Ce sont des personnes qui vont nous aider à mettre d'autres choses en place. Mais ensuite, il faut les dépasser. C'est-à-dire qu'on a tous des ressources d'amour et d'empathie et d'inventivité. Il suffit simplement de se connecter avec l'autre, l'enfant qui est en face de nous. Et c'est ce que l'OVO prône, en fait. C'est cette richesse intérieure. Et voilà, toute recette, elle n'est pas appliquée à la lettre parce que ça peut être très néfaste, ça peut être détourné en manipulation. Donc il faut ici prendre toute recette avec des pincettes. Mais c'est tout à fait en tout cas, tous les outils de communication non violente sont, pour nous, c'est la manière dont il faut vivre ensemble, en fait.
Alors, et puis, on parle des enfants, de l'éducation, mais ça marche aussi dans le couple, ça marche aussi dans le travail, ça marche avec tout le monde.
Ben, je crois que ça change la vie, en fait, quand on emprunte ce chemin. On change tout à fait ses rapports avec les autres. Et ça apporte beaucoup d'amour. On peut se dire qu'on s'aime, y compris, pourquoi pas, dans le travail. On peut changer complètement son rapport au monde. Et je crois que voilà, c'est ce chemin qu'il faut emprunter. Quoi.
Et ce n'est pas compliqué ?
Non, 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 ce n'est pas compliqué. Il faut se faire confiance, en fait, se dire que ce qu'on a vécu, c'est une chose. Peut-être qu'il y a un petit travail à faire pour savoir ce qui nous a fait souffrir et ce qui fait qu'on peut reproduire un schéma par rapport à son propre enfant. Peut-être une situation qui, nous, va nous mettre en colère par rapport à une autre personne. Peut-être faire un travail là-dessus, mais ensuite se faire confiance et se dire qu'on peut tout à fait y arriver, qu'on est capable de changer vraiment radicalement de méthode d'éducation. Et ça peut se passer en un jour, 10 jours, 15 jours. Le déclic peut être très rapide. Après, comme on dit souvent, en fait, on est au départ des parents inconscients. Ensuite, on devient des parents conscients mais incompétents. Et il faut essayer de temps en temps de monter sur la marche parents conscients et compétents. Mais on ne redeviendra jamais parents inconscients et incompétent. Donc le chemin est là, quoi.
Voilà, et j'insiste sur le fait qu'on ne sera jamais non plus parfait, on ne peut pas être parfait, et voilà, c'est aller vers une réflexion et un changement, en se disant qu'en plus, comme nos propres enfants souvent nous prennent comme exemple, on leur apprend aussi à aller dans cette voie de plus d'empathie et de moins de violence.
Ben oui, c'est ça, en fait, les enfants, plus que tout ce qu'on peut leur dire par les mots, ils nous voient vivre. Et si au quotidien on applique tout ce genre de choses, bah, d'eux-mêmes en fait ils vont vers ces moyens de vivre ensemble. Il faut leur faire confiance. Et c'est par les enfants que nous grandissons, en fait. C'est eux qui nous font grandir et pas l'inverse.
Très bien, bah Maude, merci beaucoup. Donc, je rappelle donc l'Observatoire de la violence éducative ordinaire, donc qui est une association qui milite pour une loi qui ferait évoluer un peu cette situation. Et puis, vous devez aussi faire d'autres actions. Donc, on peut vous contacter et vous retrouver ovo.org sur Internet. Merci.
Merci infiniment.
C'était l'ours et la carotte. Écoutable sur Internet.